Avec notre affection, créer, c'est résister. Résister, c'est créer.
Une émission pour se regonfler et pour se donner du courage pour les combats à venir.
Nous autres, ce soir, à partir de 20h. France Inter et le Théâtre du Rond-Point présentent, dans le cadre des lectures monstres, Pleurnichard, de Jean-Claude Grimbert, édité au Seuil. Gosse de déporté, c'est pas une vie. Comment se venger et de qui ?
Il fut circoncis 8 jours après sa naissance par un chirurgien agnostique et j'espère qualifié.
Lecture par l'auteur du 8 au 12 mars à 18h30. Retrouvez Pleurnichard dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter. Je vous laisse avec Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour à tous. Je voulais vous dire que je suis une toute petite retraitée avec même pas 700 euros par mois. Et je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont encore plus malheureux que moi, qui ont encore bien moins que moi, et qui sont tout à fait sûrs que M. Sarkozy va les sortir d'affaire. Et je pense qu'en 2012, ils revoteront M. Sarkozy. Alors des fois, je perds un peu espoir. Hein. Allez, va, je vous fais une grosse bise à tous. Heureusement que vous êtes là. Au revoir.
Bonjour Daniel, bonjour l'équipe, c'est Zouvert de Fruges. Merci beaucoup. C'est la première fois que j'ai apprécié les bouchons parisiens en écoutant votre émission de 15h à 16h. Merci et bonne continuation, à bientôt.
Bonjour, je ne sais pas pourquoi on râle pour ces histoires de gaz de schiste, mais c'est formidable. Oui, bah, la nappe phréatique est polluée, mais ça crée de l'emploi hein, à l'extraction, ça crée de l'emploi parce qu'il faut nettoyer l'eau après, hein. Et puis tous ceux qui boivent l'eau de source, bah, faut les soigner, donc ça crée de l'emploi aussi. Donc c'est formidable, en fait. Tout ça d'emploi, en plus. Bon, voilà, c'était Alistair, dans la Nièvre.
Bonjour à tous. Qu'est-ce que j'apprends aux nouvelles de France Inter, notre Michel Simon ou Louis Jouvet d'aujourd'hui, notre Al Pacino ou Robert Niro français, notre si grand acteur, il fait 1m90 ou 2m, j'ai nommé Jean Reno, veut s'exiler en Suisse. Mais quelle misère, ça n'est pas possible. Monsieur Jean Reno, allez, je vous appelle Jean. Jean, si tu écoutes l'émission, si tu dois aller en Suisse, fais-moi plaisir, reste-y. Si tu peux convaincre Christian Clavier de t'accompagner, c'est même encore mieux. Hein. Alors reconvertissez-vous, achetez une ferme et faites du fromage. Allez, merci d'avance.
Bonjour à tous les AMG, Daniel, toute son équipe. Suite à la réunion du repère de Limoges du mercredi 2 mars, où il a été question du gaz de schiste, nous transmettons que l'ensemble des personnes présentes se sentent concernées et sont révoltées par ces explorations contre nature. Nous sommes solidaires avec les mouvements déjà créés et nous trouvons extrêmement urgent de nous lever en masse pour porter le nom à Paris, le nom N-O-N hein, à Paris, tous ensemble de toutes les régions de France. Voilà, bonjour à tous, à bientôt.
Salut Daniel, attention, attention danger. Les Américains débarquent en Afrique du Nord, c'est pas pour rien. Ils ont reniflé l'odeur du pétrole, en tout cas c'est pas pour les beaux yeux des Libyens. Et si l'Europe se laissera faire comme d'habitude, il paiera le prix très très cher, cette fois-ci. Car il aura un deuxième Irak juste à sa porte. Les Américains, eux, sont très loin. Et s'il y a quelqu'un qui se frotte aujourd'hui les mains, c'est bien l'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Car la Libye est constituée de tribus et de nomades. Et l'ACMI trouvera plus qu'un soutien à l'intérieur de la Libye. Je ne vous dis pas que tout ça va renforcer l'ex-GIA en Algérie, sans parler de la Tunisie et de l'Égypte, qui sont toujours deux pays déstabilisés. Alors l'Europe doit être ferme envers les États-Unis, à ne pas rentrer en Libye, tout en continuant à abattre le dictateur politiquement et financièrement, et laisser les Libyens poursuivre leur révolution de l'intérieur jusqu'au bout. Car qui sème la répression récolte la révolution. C'était Saïd de Colmar.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Je m'appelle Aïcha. Je laisse ce message en mémoire de mon grand-père, qui est né le 5 mars 1898 en Algérie. Demain serait son anniversaire. Mon grand-père, en tant que soldat français, a fait la guerre de 14-18, même s'il était très jeune, puis celle de 39-40. À cette période, personne ne s'était posé la question de savoir si l'imam de sa mosquée prêchait en français ou en arabe, ou s'il priait en arabe ou en français, ou s'il priait dans la rue ou dans les tranchées. Bien sûr, notre président n'était pas encore né, et M. Copé non plus. C'était Aïcha, la gazelle du palais, mais pas celui de l'Élysée.
Bonjour Daniel Mermet, c'est Gilles à Paris dans le 9e arrondissement. J'ai écouté avec une très 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 grande attention votre reportage sur les Arabes à Paris. Et notamment jeudi, le premier reportage que vous avez passé sur le Tunisien qui arrivait en France avec ses petites boulettes de viande. Ça m'a profondément ému. Habitant le 9e, je suis à 2 pas, voire 5 minutes de la Goutte d'Or. Et c'est vrai que pour moi, les Arabes, ça fait partie intégrante de la culture française, de Paris. Et heureusement, mais heureusement, bordel, qu'ils sont là. Parce que sinon, on ferait quoi à se regarder le nombril, là? Dernière petite remarque, je suis gay, G-A-Y. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, ça veut dire être PD, homosexuel. J'ai un petit copain, il s'appelle Samy, il est algérien. Et j'ai vraiment des grands, grands moments de bonheur avec lui. Bon, comme ça. À bientôt. Au revoir.
Et merci pour tous ces messages, chers AMG. Vous le savez, la presse s'effondre. Les publications papier, ce sera bientôt la fin. Tout passe sur Internet. Pas si sûr. Bon, nous sommes tous d'accord. Un produit, quand on veut vendre un produit, il faut faire des études de marché. Non. Pas si sûr. En tous les cas, il faut faire de la pub. Il faut un plan com. Non. C'est pas sûr non plus. Bon, parlons du dessin. Le dessin. Aujourd'hui, le dessin, c'est fini, le dessin. Il suffit d'un bon logiciel, un petit coup de Photoshop, et puis voilà. Non, ça peut encore se faire entièrement à la main, le dessin, avec une plume et de l'encre, en tirant la langue. De quoi vous parlez, là? Eh bien, on parle d'une entreprise tout à fait singulière, que vous connaissez très probablement, vous êtes nombreux à connaître, au moins si vous vous souvenez de votre enfance, et puis si vous avez des enfants, et puis si vous avez des petits-enfants, et qui s'appelle La Hulotte. La Hulotte. La Hulotte, c'est une revue irrégulière, irrédromadaire, dessinée par un seul homme depuis 40 ans. Et qu'est-ce qu'on voit dans La Hulotte ? Eh bien, des dessins absolument formidables de cet homme-là qui s'appelle Pierre Déhomme et qui dessine tout, tout à la main. Les petites bestioles, les petites plantes. Je dis petites plantes parce que c'est ce qu'on a sous la main, alors on croit que c'est banal, c'est rien du tout. Bon, ben voilà, c'est ailleurs que les choses sont extraordinaires. Eh bien non, ce que fait Pierre Déhomme depuis 40 ans, c'est montrer que l'extraordinaire est ici, dans les bois, en marchant. Et en ce moment, c'est le moment. Non, avant le printemps. Non, pas l'automne avec les feuilles jaunes, rouges. Et rouge, c'est que c'est. Non, en ce moment, c'est en ce moment qu'il faut se balader dans les bois tranquillement et prendre son temps et regarder, observer et s'imprégner et écouter et rentrer à la maison, se documenter pour découvrir qu'il n'y a rien de plus beau qu'une araignée. Ce type, ce Pierre Déhomme, qui dessine depuis 40 ans des bestioles de très très près, des feuilles, des fleurs de très très près, il est fou d'araignées. Et son entreprise marche très bien, 160 000 exemplaires vendus uniquement sur abonnement. Vous pouvez aller sur Internet, il n'y a quasiment rien. Vous pouvez aller voir le dossier de presse de cette entreprise. Vous trouverez 2-3 feuilles. Ils s'en foutent complètement, les journalistes. Où il faut vraiment insister pour arriver à lui prendre quelques minutes, quelques heures de son temps. Parce qu'il passe tout son temps voilà, à dessiner, à observer. Et lui, il a une équipe, bien évidemment, autour de lui, mais il fait tout à la main depuis 40 ans, les dessins comme les textes. Et Antoine Chao est allé le voir dans ses Ardennes, et c'est avec eux qu'on va passer cette heure de la basse J'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse J'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Hélène de Fontenay-sous-Bois. Pour faire suite à l'émission avec Éric Cazan et Alain Badiou, si vous voulez montrer votre solidarité avec la Palestine, nous avons un happening au Bois de Vincennes, au lac des Minimes, dimanche 6 mars à 16h, pour le bateau pour Gaza, puisqu'un bateau français va se joindre à la flottille de la Liberté qui va faire route au mois de mai pour Gaza, pour rompre le blocus. Donc rendez-vous au Bois de Vincennes, au lac des Minimes, dimanche 6 mars à 16h.
Bonsoir Daniel, bonsoir là-bas si j'y suis. Donc je pense que comme tout le monde, vous avez dû lire Le Monde, l'article « Le Sénat refuse de rétablir la peine de prison pour les parlementaires fraudeurs ». Résultat, seuls en fait les leaders syndicaux vont purger de la prison. Vous pouvez pour cela soutenir Xavier, Mathieu et tous et toutes nous rejoindre sur Facebook dans le groupe « Soutien à Xavier Mathieu ». Il y a également une pétition à signer. Je vous remercie.
Bonjour, c'est Ramdan Saadi. Notre actualité, c'est le changement pour une Algérie démocratique et sociale par un engagement pacifique, unitaire et déterminé. Cette semaine, notre action hebdomadaire prévue pour le samedi 5 mars rejoint la marche organisée par le CNDF, Collectif National pour les droits des femmes, qui commémore ce même jour la Journée internationale de la femme par une marche allant de la place des droits de l'homme au Trocadéro, à l'ambassade d'Algérie. Nous appelons donc tous les militants pour la démocratie en Algérie et au-delà les amis de l'Algérie à venir consolider cette manifestation à samedi 5 mars 14h30, place du Trocadéro.
C'est Fabienne. Alors j'étais en train d'écouter la fin de l'émission, là c'était bien avec cette musique arabe, j'étais dans ma robe que j'ai achetée en Tunisie il y a fort longtemps, et j'étais en train de danser en même temps que je rangeais mon lave-vaisselle, et puis d'un seul coup, Daniel Mermet a dit une chose qui m'a fait bondir, il a dit, Luc Chatel vient de décider que les femmes voilées ne pourraient plus accompagner les enfants dans leur sortie à l'école. Alors je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais ça m'a fait bondir. Alors, voilà, ça m'a fait bondir ce que j'ai dit. Dans ce cas-là, plus de bonne sœur non plus. Bon, et je vous remercie. Au revoir.
Salut Daniel et les auditeurs modestes et géniaux. Je vous appelle pour nous dire qu'on se retrouve à Metz dimanche 6 mars à 18h au Café La Renaissance de Runevigne Saint-Avold pour parler de la LOPCI 2 et oui, la sécurité intérieure, le retour. Donc on vous attend nombreuses et nombreux pour débattre de cette loi. Merci, à bientôt.
Bonjour, nous sommes toujours à la recherche de Michel Hervé, un monsieur de 63 ans, Alzheimer et diabétique, qui a disparu le 15 février dans la région nantaise. Nous organisons ce week-end une grande recherche approfondie avec tous nos contacts et tous les gens motivés pour sillonner les parcs nantais et sillonner toute la région d'Auray, Vannes, Quiberon, Gavre. Pour toutes les personnes disponibles et motivées, vous pouvez diffuser l'information et les tracts que vous aurez sur l'adresse michelhervédisparu.wordpress.com. Voilà, donc on demande aux gens s'ils peuvent accrocher une image de mon père en fait sur eux et puis distribuer des tracts et puis voir s'il y a des témoins qui l'ont vu. Donc c'est un homme de 1m77 grisonnant qui boite, qui a des lunettes rouges et donc qui est malade d'Alzheimer, qui peut être effectivement très mal en point aussi à cause de son diabète. Donc ce serait gentil de nous aider. Il est diffusé autrement sur Facebook. Merci beaucoup. Au revoir.
Ah, c'est un petit terrier là.
Ça y est, là. Ouais, c'est frais, hein.
Ouais, c'est frais.
C'est sûrement un blaireau, je pense. Parce qu'on voit une espèce de, vous voyez, une petite trace, une petite coulée.
C'est certainement un blaireau.
Le blaireau, c'est un animal assez lourd. Et en descendant son terrier, il fait un sentier bien marqué. Mais là, c'est tout jeune, hein. C'est vraiment quelque chose de neuf. Hein. Vous voyez, il a retiré les déblais. Il a évacué tout ce qu'il y avait là.
Donc il n'est pas encore abonné, lui. Parce que c'est le journal le plus lu dans les terriers, ah bah voilà, la hulotte.
Un nouveau terrier pour nous, ça. C'est excellent. Oui, oui.
La hulotte, le journal le plus lu dans les terriers.
Le plus lu dans les terriers.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, avec Antoine Chao et Pierre Desommes, l'émission la plus entendue dans les terriers.
Alors voilà, ici c'est le bureau de la hulotte. Les guêpes, la vipère, le lierre, les lianes, l'escargot, les chauves-souris, le platane. C'est tous les
sujets numéros qui ont été faits. Dans les dernières années, donc depuis 83.
Voilà, les frelons.
Et puis
voilà,
les sujets qui sont à l'étude, mais dont je ne sais absolument pas dans quel ordre je vais les faire.
Top secret, hein.
Oui, c'est top secret.
C'est les escargots ou la chouette ou le grand hamster. Bon, mais on en dira voilà, pas
non,
plus.
Il ne faut pas révéler ces choses.
Alors, c'est ici que vous élaborez, Pierre Desommes, tous ces bientôt 100 numéros de la hulotte, c'est ça?
Oui, enfin, dans quelques années, 100 numéros. On n'y est pas encore. 95.
Vous dessinez tous ces animaux que vous observez dans la nature.
Oui, la hulotte.
Vous illustrez la hulotte. Voilà.
La hulotte a une particularité, c'est qu'elle n'est pas illustrée de photos, enfin, sauf rares exceptions. Elle est illustrée de dessins, et en plus de dessins à la plume, en noir et blanc. J'ai d'abord dessiné avec des petites plumes encre de Chine, très fines. Et puis ensuite, ces plumes-là ont disparu du commerce. Et maintenant, je dessine essentiellement, pas uniquement, mais avec des outils de dessin industriel, des stylos à plumes tubulaires et à encre de Chine qui permettent de faire des traits extrêmement fins.
Et donc chacun de ces numéros, vous les documentez avec une partie de ce qui est ici et puis j'imagine des recherches que vous faites avec les lectures spécialisées, les ouvrages.
Voilà, alors d'abord j'ai une bibliothèque assez fournie d'ouvrages que j'amasse depuis maintenant des dizaines d'années puisque la hulotte va bientôt avoir 40 ans. Et je fais d'abord le tour de la bibliothèque pour voir si le sujet qui m'intéresse a des chances d'être bien documenté, s'il y a vraiment de la matière, si c'est intéressant. À ce moment-là, je vais me mettre à la recherche de travaux scientifiques, c'est-à-dire d'études qui ont été faites par des chercheurs qui ont travaillé quelquefois jusqu'à 20 ans et même plus sur un seul sujet ou quelquefois sur un seul animal. Il y a un travail également de terrain, bien sûr, parce que je ne peux pas parler d'un sujet que je n'ai pas vu, que je n'ai pas humé, que je n'ai pas exploré moi-même. Je dois le sentir, je dois vraiment m'imprégner, l'aimer, me passionner pour ce sujet. Ce qui fait que, par exemple, il y a des sujets que je ne vais pas traiter, c'est les sujets de montagne, parce que je ne les connais pas, que je n'ai pas le temps d'aller les voir, ou les oiseaux marins, je ne peux pas non plus en parler, parce que je les connais mal.
Parce qu'ici, on est dans les Ardennes.
Ici, on est dans les Ardennes, quoi, donc ouais. En fait, c'est un pays de... En tout cas, ici, c'est un pays de forêt. Alors, par la force des choses, je m'intéresse plus à la forêt qu'aux autres milieux.
Eh bien, allons observer, alors, un peu.
Les crabrosses, le pompil des chemins, les sepsis, le cirfe manche à air, le cirfe porte-plume, le cirfe des groseilliers, le cirfe à ceinture, le cirfe du poirier, les lophiles suspendus, les ristales tenaces, les ristales obstinées, le cirfe tête de mort, la volucelle transparente, la tachinaire hérisson géante, la tachinaire coccinelle,
la guêpe rouge, les ichneumons, le gastéruption à javelot, la réduve irascible, la macrophylle rustique, la punaise à damier, la graphosome, le graphosome italien, le téléphore fauve, les mordelles, les deux clairons, ne pas oublier les deux clairons rouges et noirs posés sur une fleur blanche ressemblent à des pierres précieuses, des rubis. Quand vous les verrez, vous serez émerveillés. La lecture portecueil. Voilà, quelques bestioles, on va dire, dessinées par Pierre Déhomme dans le numéro 84 de la Hulotte. Mais alors, il vous explique dès d'entrée de jeu que c'est l'étude des insectes est super captivant, mais malheureusement pas très facile. Il y a tellement d'espèces, la nature a exagéré. Rien que dans la catégorie mouches, moustiques et moucherons, c'est-à-dire les diptères dont je viens de vous parler, il y a en France 8 à 10 000 espèces différentes. Personne d'ailleurs n'en connaît le chiffre exact. Et vous êtes là avec votre insecticide. Pchit, pchit, pchit. En trois coups, vous avez tué tout ça. tout ce qu'on vient de décrire, là, d'évoquer. Et à d'évoquer seulement, parce que sur chaque dessin, il y a des centaines d'heures de boulot. Pierre Déhomme, pour un numéro de la Hulotte, qui fait à peu près 40 pages, dessins et textes, dessins en noir et blanc, que les enfants peuvent colorier, il donne des indications pour les couleurs, mais lui, c'est en noir et blanc, et bien, il passe environ un millier d'heures. Et ça, il fait tout lui-même à la main depuis 40 ans, et ça marche merveilleusement, puisqu'il a 150 000, 160 000 abonnés, c'est uniquement sur abonnement. La Hulotte. Et c'est un défi formidable à tout ce que j'évoquais en commençant, c'est-à-dire l'informatique, la vitesse, l'empressement, le gâchis. On peut, dans un mètre carré de prairie, passer sa vie. C'est à peu près ce qu'il aura fait, ce gars-là. Un mètre carré, mettons un petit bout de prairie, un petit bout de haie, puis un petit bout de forêt. Ça lui suffit, ça lui a suffi à vivre pendant 40 ans, à s'émerveiller pendant 40 ans, à s'imprégner pendant 40 ans, à essayer d'être le plus savant possible aussi et le plus populaire possible en même temps, puisque ces numéros de la Hulotte sont destinés à un jeune public et on va le voir parfois à un public un petit peu moins jeune. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, l'émission la plus écoutée dans les terriers.
Oh, libellule si délicate, oh, les mésanges, petites pattes, gentil coquelicot, pardon, chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans l'aubépine. Les enfants, chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil, renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aime, le vent les aime. En regardant le temps passer dans la rivière. d'azur. Pardon. Pardon. Pardon.
Allons observer. Alors, la hulotte, on peut aussi dire que c'est un journal, j'allais dire modeste et génial, mais c'est pas ce que je veux dire. Savant et populaire.
Déjà.
Savant et populaire, on peut dire.
Oui, notamment, c'est une chose très importante, ça doit pouvoir être lu et compris par un enfant, disons, on va dire, de 10-12 ans. Ça, c'est vraiment... J'étais instituteur au départ et c'est vraiment mon fil d'Ariane permanent. Chaque fois que j'écris, je passe vraiment beaucoup de temps à travailler les textes, à corriger, à la simplifier au maximum. Pas de jargon, pas de phrases trop compliquées. En même temps, il ne faut pas qu'elles soient stupides et mal fichues au motif qu'on s'adresse à des enfants. Hein. Mais ça doit être accessible à une intelligence de 12 ans, on va dire. On a des lecteurs plus jeunes, on a des lecteurs qui ont 8 ans, mais enfin, c'est des enfants très, très passionnés, c'est des cas atypiques. Voilà, donc, en même temps, ça doit être... un adulte ne doit pas se sentir honteux de lire, ça ne doit pas être un langage un peu enfantin. Ça doit être quand même écrit et se tenir.
Parce qu'il y a encore des abonnés de la première heure, quoi, des grands-enfants, quoi.
Ah oui, oui, on a maintenant... je commence à prendre un peu de bouteille. Donc, on a des gens qui étaient abonnés dans les années 70 et qui, maintenant, commencent à refiler la hulotte à leurs petits-enfants, ce qui est... je sais pas, notre plus vieil abonné a plus de 100 ans. Oui, c'est fait pour être lu par les adultes, que les adultes ne se sentent pas déshonorés, dire des choses écrites dans une langue un peu gaga, mais que les enfants puissent comprendre.
Voilà, Pierre Déhomme, ça se passe dans les Ardennes, un petit patelin qui s'appelle Boultaubois. C'est là qu'il opère, c'est là qu'effectivement, depuis 40 ans, avant de dessiner ou tout en dessinant, il va faire un tour dans les bois pour s'imprégner, pour observer de très près, de très très près, la nature, les bestioles, la végétation... Et souvent sur un seul thème, il travaille pendant des mois sur le blaireau, sur telle araignée, sur la hulotte, sur une bestiole et une autre. Il a commencé à se préoccuper de ces choses-là alors qu'il était instituteur, il va nous le raconter. Mais à un moment où le mot écologie n'existait pas encore, le mot écologie, sans doute un très vieux mot bien sûr, on va me dire mais non, c'est oui, mais il ne s'employait pas, je me souviens. C'est apparu au début des années 70, ce mot-là. Mais auparavant, on disait nature, protection de la nature, inquiétude pour la nature. On n'était pas très inquiet pour la nature jusque-là. Il y avait ceux pour qui, voilà, il ne faut jamais toucher à la nature. La nature est saine, il y a une sorte de divinité là-dedans, des divinités, une divinisation de la nature. Oui, pour cela, bien sûr, c'était très important. Mais la notion qu'on était en train de détruire la nature, que la nature était menacée, cette conscience est apparue à peu près à ce moment-là. Il y a ceux qui ont deviné que ces choses-là arrivaient, qui ont pris cette conscience très tôt. C'est un gars comme Pierre Déhomme. Et depuis, il n'a pas cessé donc de dessiner. Et je parlais de la façon dont on dessine aujourd'hui, c'est-à-dire on pense que voilà, il suffit d'un logiciel et d'un bon coup de Photoshop et d'effets spéciaux et tout ça. Bien sûr que non. En dessinant, on s'imprègne physiquement de ce qu'on dessine. Physiquement, à travers la main, ça remonte à travers le corps jusqu'à l'esprit. Oui. Et aussi en se baladant dans une forêt, les choses rentrent, pas seulement à travers les yeux ou à travers une petite partie du cerveau, comme c'est le cas quand on est face à un ordinateur, mais ça rentre partout. Voilà, c'est tout le corps qui comprend et qui peut témoigner sans qu'on le sache toujours.
Alors on passe enfin, on est... sous quelques résineux magnifiques, là c'est quoi ça?
Oui, c'est une allée d'épicéa qui borde le chemin et qui nous amène vers le cœur de la domaniale, le Boultaubois, forêt dite de la Croix au bois, mais anciennement de Boultaubois.
Alors c'est votre terrain d'observation privilégié?
Voilà, oui, ça je suis là, je viens tous les jours. Observer, marcher simplement, réfléchir, travailler sur mes numéros. C'est pour moi un endroit magique et indispensable. Hein.
L'idée de la hulotte, c'est aussi donner envie aux, aux gens, aux enfants et puis aux plus grands de venir en forêt aussi, de découvrir la forêt.
Voilà, exactement. De sortir de chez soi et d'aller découvrir la nature tout à fait banale qu'on a autour de chez soi, là et autour de la maison, la forêt la plus proche, un bord de chemin. On était un groupe de jeunes profs et instits des années 70 et on venait de commencer à lire les premiers livres qui traitaient de la destruction de la nature, qu'on couvre aujourd'hui sous le nom d'écologie, mais qui à l'époque, et je ne sais même pas si le mot écologie existait dans son acception actuelle. On ne savait pas très bien par quoi commencer et l'idée était tout simplement de s'adresser aux enfants parce que les adultes ne paraissaient pas du tout s'intéresser à ces thèmes. Et c'est comme ça que l'idée est venue de créer des clubs de protection de la nature et de mettre à leur disposition un journal de liaison, c'était la Hulotte. Les clubs, on en a eu beaucoup moins que ce qu'on imaginait, que ce qu'on espérait. Et petit à petit, la partie réservée aux clubs a fondu, s'est rétractée, a été remplacée par une partie d'informations sur les animaux, les fleurs, les arbres. Et le journal a pris, disons, l'aspect qu'il a actuellement d'informations sur la faune et la flore.
Qu'on peut se procurer uniquement par abonnement, c'est ça? Donc vous avez des abonnés très fidèles?
Oui, c'est un mode de fonctionnement qu'on a eu dès le départ. On n'avait pas les moyens du tout d'être en kiosque, puis de toute façon c'était un tout petit journal qui paraissait dans un seul département. Donc on a gardé ce fonctionnement par abonnement. S'abonner à la Hulotte, c'est recevoir les 6 prochains numéros, bon, qui tombent quand ils sont prêts. Il faut être patient, il ne faut pas forcément s'attendre à les recevoir à date fixe. Disons qu'en gros, il y a 2 numéros par an. Les bonnes années.
On est en train de grimper en haut d'une colline.
Voilà, alors ça c'est une forêt où il reste, bon elle est vide, c'est une espèce d'immense clairière. Il reste quelques arbres. Alors on va voir un des arbres étranges. C'était un peu le but du numéro que j'ai fait sur les petits mystères des grands bois. Je me suis aperçu en marchant en forêt qu'il y avait toutes sortes de choses qu'on ne remarque pas et qui en fait sont très énigmatiques. On va en voir quelques-unes, des choses auxquelles on ne ferait pas forcément attention. On va voir.
Pour lire le présent numéro dans des conditions quasiment voisines de l'idéal, nous recommandons expressément la méthode suivante. Partir à la recherche de la forêt la plus proche de votre domicile. N'entamez votre lecture qu'après vous êtes confortablement assis dans l'herbe, le dos appuyé contre le tronc rugueux de notre héros, l'arbre. Les arbres fourmillés. Petit mystère des grands bois. Dans votre forêt tout près de chez vous se dissimule sans aucun doute, immobile au milieu des troncs, quelques-uns des arbres les plus énigmatiques de France, les arbres fourmiliers. Ils tirent une langue interminable, longue comme ça. Qui sont-ils? D'où viennent-ils?
Alors si on se retourne, donc, cet arbre-là,
ah oui,
une forme assez fabuleuse. Alors voilà, c'est typiquement un petit mystère, alors il faut se représenter ce que c'est. C'est un arbre, c'est un être reconnaissable à son écorce grise, très lisse, et qui, vous voyez, est tout courbé. Le tronc part du sol et fait un arc de cercle. Et sur cet arc de cercle, on voit tout au bout quelque chose qui ressemble à une grande langue toute droite qui se redirige vers le sol, un peu comme une langue de fourmilier. Et sur son dos, il y a 4 troncs qui poussent vers le ciel. Alors ça donne une forme assez étrange, énigmatique, d'autant qu'on voit, vous voyez, une espèce de petit œil à la base de la trompe, un œil rêveur, un peu perdu, qui donne un aspect presque animal. Alors ça, ce type d'arbre, c'est ce qu'on a appelé les fourmiliers, parce qu'ils sont tous construits sur le même modèle. Mais maintenant, qu'est-ce qui leur est arrivé?
Voilà typiquement un petit mystère. Pourquoi ce être a pris cette forme, toute courbée, avec cette langue et ces arbres qui lui poussent sur le dos?
Je ne sais pas.
Voilà. Et alors, ce que j'adore avec ces arbres-là, ils sont tous construits sur le même modèle et il n'y en a pas deux semblables. Autant d'arbres, autant de dessins, autant de figures, autant même d'aspects presque de personnages, vous voyez. Et ça, c'est merveilleux, on ne s'en lasse pas, c'est très très beau. Alors aussi, nos lecteurs nous ont envoyé, ont repéré tous ces arbres-là au cours de leur balade. On fait des photos maintenant et qui sont exposées sur le site.
Toutes ces voix que l'on entend, c'est la forêt qui chante, c'est le bruit d'une feuille tremblante et frémissante au gré du vent. Dans le mystère et le secret de la forêt profonde, tous les échos joyeux répondent aux chansons de la forêt. Et oh, et oh, écoutez les échos, oh, et oh, et oh.
Continuer notre chemin par là-bas, je vais voir peut-être d'autres choses.
Sans forêt, sans bois, pas de vie animale, quoi, parce que c'est aussi un des sujets de la hulotte, c'est la faune, quoi, qu'on retrouve dans la forêt, dans cette forêt notamment.
Ah oui, bien sûr. La forêt, c'est le refuge de beaucoup d'animaux. C'est le chevreuil, auquel j'ai consacré un numéro complet, qui est un animal très séduisant, très sympathique, et qui laisse aussi beaucoup de petites traces en forêt qu'on ne sait pas forcément voir. On va peut-être en rencontrer en marchant. Des petits indices. Donc, j'ai dans le numéro sur le chevreuil, j'avais fait un petit carnet des indices pour les enfants. Je crois qu'il y en avait 17. Donc, 17 petits indices à la Sherlock Holmes. Pour qu'on vous promenait en forêt, vous êtes sûr que le chevreuil est là.
Parce qu'il y a plein de petits personnages. Hein. Il y a le détective.
Oui.
Il y a eu aussi le petit reporter, là, qui s'appelle.
Le petit reporter. Alors, ça, c'est. Je me suis basé sur un enfant que j'ai eu en classe, qui était un cancre total. Il était très mauvais en orthographe, mais c'est un observateur hors pair. Et quand on faisait les sorties en nature, c'est toujours lui qui repérait les petits détails, les oiseaux qu'il voyait à des centaines de mètres. Il avait un vrai don pour l'observation. Donc, c'est. C'est un peu de ce petit personnage que je me suis inspiré pour créer cet enfant, Adrien Desfossés, qui est un peu la mascotte de la hulotte.
Et qui parfois se balade avec son micro
oui,
pour interviewer les bêtes.
C'est toujours lui qui va interviewer dans les situations les plus périlleuses, à cheval sur une oie sauvage ou ayant grimpé au Xème étage d'un arbre pour aller interviewer le Guy, qui lui-même est un petit personnage qui va raconter sa vie au reporter de la hulotte. Par exemple, dans cette forêt, il y a un animal moi, qui m'a beaucoup passionné, c'est le pic noir. Alors, le pic noir, c'est un très grand pic, tout noir, comme son nom l'indique, grand comme un corbeau, très impressionnant, assez sauvage, qui ne se laisse pas facilement approcher, et qui fait des loges, des trous. Alors c'est souvent très spectaculaire, parce que c'est des gros êtres, comme ça, et à 8 mètres, 10 mètres de hauteur, plus haut, vous avez un trou, très gros, en forme un peu d'ogive, de fenêtre d'église, c'est le trou du pic noir.
Et il s'y installe, donc il y niche.
Alors, je l'ai appelé l'abbé Pierre de la forêt parce que il faut qu'il fasse des trous. Il ne peut pas s'en empêcher. Donc même quand il a un arbre avec un trou parfait, qu'il a creusé en 2009, eh bien en 2010, ça ne lui suffit plus, donc il faut qu'il en trouve un autre. Ce qui fait que les trous deviennent disponibles pour toutes sortes d'animaux. On va descendre sur ce chemin.
Comment vous savez qui a fait le coup? Ce n'est pas bien sorcier, des souches explosées.
des rondins déchiquetés, des trous béants dans les troncs. Tout cela est à l'évidence l'œuvre du grand pic noir. Notre forêt peut vous paraître banale, mon cher Watson, mais ce n'est qu'une apparence.
Vous avez une petite zone. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peu de gens remarquent. Une petite zone où les feuilles mortes ont été proprement balayées et la terre est à nu, toute propre. Il n'y a rien. Et qu'est-ce que c'est? C'est une couchette de chevreuil.
On peut trouver des poils de chevreuil. Il y en a ici, oui, des petits poils.
Le chevreuil va s'arrêter ici et la première chose qu'il fait avec ses pattes, il nettoie les feuilles pour que ce soit bien propre et il se couche tranquillement, accroupi. Vous voyez, ici, on voit les traces des genoux bien lisses. Il était peut-être là il n'y a pas très longtemps. C'est un animal merveilleux, le chevreuil.
Irrégulomadaire, le mot que je cherchais tout à l'heure. Irrégulomadaire, c'est la hulotte. Irrégulomadaire parce que c'est quand il a fini, quand il a, voilà, quand il a tout dessiné, tout écrit, tout bien considéré, ben vous recevez le numéro, si vous faites partie des 160 000 abonnés de ce magazine tout à fait étonnant, de cette revue tout à fait étonnante qui s'appelle La Hulotte, qui présente toutes sortes de choses qu'on ne remarque pas et qui sont très énigmatiques.
Alors, les arbres, oui, c'est la saison idéale pour observer ces troncs, parce que quand on va revenir dans 2 mois, les feuilles auront poussé, les bois, pour l'instant, vous voyez, sont absolument transparents. On voit très loin, le regard se porte à plusieurs centaines de mètres. On est un peu gêné par les troncs, mais c'est tout. Quand vous revenez ici, toutes ces petites branches, tous ces petits arbustes ici vont être couverts de feuilles, et on verra peut-être à 50 mètres au grand maximum. Et toutes ces bizarreries qu'on vient de voir seront cachées par les feuilles, seront devenues pour un grand nombre invisible.
La lumière rentre jusqu'au profond de la forêt, quoi.
J'adore me promener dans les bois en hiver. Je préfère ça à l'été, même si le temps est souvent pas forcément agréable. Puis l'été a aussi son charme. Il y a les chants d'oiseaux, il y a les fleurs, etc. Mais l'hiver, c'est merveilleux parce que pour connaître une forêt, il faut vraiment la voir en hiver. Vous voyez tous les reliefs ici. Et on les voit aussi loin que le regard s'étend. On voit les bosses, on voit les vallées. On voit les chemins, dont beaucoup d'ailleurs, j'arrive pas à comprendre à quoi ils servaient. Il y a des choses très très mystérieuses hein, qui sont dues à la façon des gens d'autrefois d'exploiter la forêt. Parce qu'aujourd'hui, on prenait la voiture, faites 8 km, vous êtes au cœur de la forêt, il faut rentrer chez vous. À l'époque, hors de question, il n'est pas question de faire 16 km à pied pour aller travailler. Donc les gens partaient avec le Frechti, s'organisaient en forêt, ils avaient des petits villages de bûcherons. Il y a une personne à Boultebois qui est née dans une hutte de bûcherons, c'est pas si vieux quand même. Et il y avait aussi toutes sortes de choses étranges dont j'ai aucune explication, des tranchées qui ont visiblement été fabriquées par l'homme et dont je n'arrive même pas à comprendre à quoi ils pouvaient servir. Mais c'est traité nulle part parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'intéresse aux coutumes des forestiers ou aux façons de travailler en forêt à l'époque où on n'avait même pas les chevaux hein, pour transporter, il fallait tout couper sur place.
La hulotte numéro 66, le chevreuil, la chevrette et le petit chevrillard. Comment diable a-t-il réussi un pareil exploit? Notre reporter Adrien Desfossés, rusé comme pas deux, a réussi à rencontrer le chevreuil.
C'est quoi ça? C'est une taupinière. Voilà. En forêt, vous avez plein de taupes. Et il n'y a jamais de taupinière. Comme le terrain n'est jamais retourné, écrasé, il passe très peu de monde, les taupes n'ont aucun besoin de faire des taupinières. Parce qu'une taupinière, il faut savoir, ça correspond à un agrandissement de galerie ou à un nettoyage de galerie. Or, le réseau de la taupe, c'est un piège. Hein, quand une taupe fait une galerie, c'est un endroit qui correspond à sa taille de corps, qui doit être parfaitement propre, vide, dans lequel elle puisse circuler à toute vitesse. Elle est dans un coin de son... On peut imaginer ça comme une espèce d'immense filet sous les feuilles mortes, à quelques centimètres. Quand un ver de terre circule, elle doit pouvoir l'entendre et arriver le plus vite possible, parce que le ver de terre traverse la galerie. À un moment donné, il tombe sur le sol de la galerie et tout de suite, il recreuse pour continuer. Si la taupe n'intervient pas tout de suite, le ver de terre va faire son trou et disparaître. Et c'est fini pour elle. Donc elle doit le récupérer très vite pour le manger. C'est sa nourriture. Donc, un piège comme ça, ça n'a pas de prix. C'est un vrai trésor pour la taupe, il faut le savoir. Il doit toujours être en bon ordre de marche, et donc c'est pour ça que vous voyez la taupe régulièrement faire un nettoyage et sortir une taupinière qui peut être plus ou moins grande. Et si vous passez avec un engin sur une pelouse, vous allez écraser les taupinières. Le lendemain, vous allez voir la taupe faire le ménage. C'est obligatoire. C'est une question, j'allais dire, presque de vie ou de mort pour elle. Et c'est pourquoi il est idiot de vouloir tuer les taupes. Parce que vous tuez une taupe. Vous êtes tranquille, elle a disparu. Mais le piège, il reste là. Et le piège, il va tout de suite trouver un amateur. Une autre taupe qui va chercher un territoire. Qui circule, les jeunes par exemple, après le mois de juin, les taupes cherchent un nouveau territoire. Et partout, elles trouvent des taupes, pas aimables, qui ont déjà leur piège et qui les éjectent férocement, y compris si c'est leurs propres jeunes, ils les fichent dehors, littéralement. Donc si vous tuez une propriétaire de taupinière, enfin de réseau de galeries, très vite, il y a un amateur qui va s'installer. Et le premier travail qu'il va faire, c'est de faire le ménage. Et c'est là que vous allez voir sortir, comme par miracle, des taupinières de votre belle pelouse. Il y a aussi autre chose, c'est que la taupe, dans sa galerie, a besoin d'un système d'aération. C'est absolument admirable. C'est-à-dire que vous pouvez passer, quand il y a une canicule, une chaleur très forte, vous allez trouver des trous. C'est la taupe qui a aéré. Et vous revenez 8 jours après, il fait frais, c'est refermé. Elle règle sa température comme ça. Alors ça, c'est quand même des choses absolument fabuleuses.
Alors, pour en savoir plus sur la taupe, c'est quel numéro de la hulotte?
Oui, oui, mais j'ai plus de numéro en tête, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais un numéro spécial sur la taupe, oui.
"16 heures dans la vie d'une taupe. La hulotte numéro spécial, la taupe. 92 pages. Le journal le plus lu dans les terriers. Soyez fin renard, tapez lahulotte.fr.
Voilà, alors on arrive dans le village des Blaireaux. C'est un château souterrain avec toutes sortes d'entrées. Avec la caractéristique typique du Blaireau, c'est une espèce de gouttière qui part du trou comme une rigole. C'est le passage à force de passer, de repasser. Sauf que là, il y a des feuilles. Ça veut dire que c'est un Blaireau qui a fait le trou, mais qu'il n'est pas passé depuis très longtemps.
Et il balaye donc, devant chez lui.
D'abord, il balaye, il aime bien se faire d'une entrée propre, c'est un maniaque. Et rien que le fait de passer, déjà, il balaye les feuilles avec son ventre. Alors là, on voit bien, et ça, celui-là, il est occupé, hein, il n'y a pas de doute. Vous voyez comme la terre est tassée? Il est là, certainement. Hein. Et il a fait un véritable... Lui, ça ressemble à un toboggan d'enfant, hein, qui descend un peu en biais et qui se précipite dans la gueule du terrier. Il est vraiment équipé pour ça, il est très puissant. Hein. Il a des griffes très longues. C'est un terrassier extraordinaire. Alors ça, c'est l'animal préféré de tous les naturalistes. Parce que si vous venez le soir, vous êtes moyennement prudent... Il sort à heure fixe, il fait son petit manège, il s'ébroue, les petits sortent, jouent, etc. Et puis après, il s'en va sur ses sentiers, parce qu'il y a des petits sentiers, on croit des sentiers de nains, qui partent tout bien tassés. Il a ses petits WC, un petit trou dans lequel il va déposer ses crottes profondes. C'est vraiment le père tranquille, ce petit nounours, en plus magnifique, hein, avec ses bandes noires et blanches. Un peu misanthrope, juste ce qu'il faut. C'est vraiment un animal que tout le monde adore. Et en plus de ça, vous pouvez le regarder dans la lampe de poche, ça ne l'effraie pas du tout. Alors, par contre, le bruit, les odeurs, ça, il faut faire très attention, parce que si vous faites une fausse manœuvre, tout le monde dans le terrier, c'est fini, plus personne ne sort.
À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Ressuscité, et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil qui leur dit: prenez, prenez la peine de vous asseoir, prenez.
prenez un verre de bière si le cœur vous en dit. Prenez si ça vous plaît l'autocar pour Paris. Il partira ce soir, vous verrez du pays.
Mais ne prenez pas le deuil, c'est moi qui vous le dis.
Ça noircit le blanc de l'œil et puis ça on les dit.
Les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli.
Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter à tue-tête. La vraie chanson vivante, la chanson de l'été. Tout le monde de boire, tout le monde de trinquer. C'est un très joli soir, un joli soir d'été.
Et les deux escargots s'en retournent chez eux. Ils s'en vont très émus, ils s'en vont très heureux. Comme ils ont beaucoup bu, il titube un petit peu. Mais là-haut dans le ciel, la lune veille sur
Alors combien d'heureux lecteurs ou d'heureux abonnés ont appris la vie des blaireaux ici, à travers la hulotte?
Bah, je ne sais pas combien tiré la hulotte à l'époque où j'ai publié l'article sur le blaireau. Aujourd'hui, on a à peu près 150-160 000 abonnés en France, en Suisse, en Belgique et dans je ne sais plus combien, une quarantaine de pays étrangers.
C'est un petit nid là sur le...
Ouais.
C'est un petit nid quoi ça alors.
Alors, c'est pas très fait, c'est bizarre, hein. Voilà, ça c'est un nid. On peut le détacher, il sera jamais réoccupé. Donc c'est un nid de grive. Grive musicienne.
Grive il... musicienne.
Oui. Bel oiseau qui chante merveilleusement, comme son nom l'indique, hein, avec des motifs très inventifs, mais répétés. Et elle fait son nid avec de la mousse, toutes sortes de petites brindilles, oui. Et à l'intérieur, ce qui permet de la reconnaître, c'est qu'elle a comme un petit ciment lissé. Voilà. Et dedans, elle pose ses œufs, une couleur sublime.
Et donc un nid n'est jamais réutilisé?
Alors, ça, ce genre de nid, non, jamais. Dans les arbres, oui, c'est les trous d'arbres. Certains oiseaux nichent toujours à l'air libre, comme la grive. Certains oiseaux nichent toujours dans un trou, comme la citelle, par exemple, ou la mésange charbonnière. Mais les nids à l'air libre comme ça ne sont jamais réutilisés. On peut les prendre sans problème et en faire une collection si on le souhaite, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, vous voyez, hein, il ne peut pas durer plus longtemps que quelques mois.
Merci à Pierre Desrommes, merci à la hulotte, il y en a plus d'un qui dit 160 000 abonnés. Quel succès, ça, sans pub, sans promo, sans com. Suffit d'entêtement, de sincérité, de curiosité et d'un sens de la pédagogie émancipatrice. Et voilà. Et puis quand même une certaine phobie douce. Là, j'ouvre le numéro consacré aux vautours et je vois que Pierre Desrommes remercie les spécialistes des vautours qui m'ont aidé dans la documentation du présent numéro. Il y a une douzaine au moins de noms de spécialistes des vautours qui ont relu un seul numéro de la Hulotte. Merci, c'était un reportage d'Antoine Chao. Merci à André Thomé ainsi qu'à Merlin et Marguerite. L'adresse du site internet de la Hulotte, c'est www.lahulotte.fr. Mais Agnès me dit que le site est planté, vous avez dû appeler trop nombreux. Il faudra recommencer plus tard. Rien ne presse, rien ne presse. Vous trouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires. Et ou bien la même chose sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Basile Bocquer. Coy Nguyen et Franck Aderer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Le Botte. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Vous voulez devenir plus riche que riche?
Ah bon?
Alors vendredi, Euromillions met en jeu près de 59 millions d'euros. 59 millions! Heureusement, ma petite machine les compte à ma place.
Ah! Il doit y avoir un petit million qui bloque là. Aïe,
estimation non garantie des gains à partager au rang 1, voire règlement.
Euromillions!
Il n'y a que Euromillions pour gagner autant de millions.
FDJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter, partenaire de l'exposition Chagall et la Bible jusqu'au 5 juin au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, en partenariat avec le Musée national Marc Chagall de Nice. À travers des peintures et gravures rarement montrées et parfois inédites, cette exposition s'interroge sur les formes visuelles que prend le texte biblique sous le pinceau de Marc Chagall. Retrouvez l'exposition Chagall et la Bible avec David McNeil à 17h10 dans le Grand Entretien.
16h20 sur Inter, on se retrouve lundi à 15h pour là-bas si j'y suis. Bonne fin de semaine à tous. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
La foule à nouveau s'est massée sur la place Tahrir au Caire pour célébrer cette fois la démission hier d'Ahmad Shafik, le premier ministre égyptien qui avait été nommé quelques jours avant le départ d'Hosni Moubarak. Le nouveau chef du gouvernement, Essam Sharaf, s'est adressé aux milliers de manifestants. Il s'est engagé à satisfaire les demandes populaires pour un changement démocratique, mais il a demandé à la foule de la patience. Et les choses avancent en Égypte. Le référendum sur les amendements à la Constitution, amendements qui permettront notamment à plus de candidat de se présenter à l'élection présidentielle, aura lieu le 19 mars prochain. Et puis Alain Juppé se rendra dimanche au Caire. Il rencontrera le chef du Conseil suprême des forces armées ainsi que des représentants des manifestants. En Libye, en revanche, les combats s'intensifient avec des bombardements intenses et des tirs d'artillerie près de Ras Lanouf, un port pétrolier stratégique situé à 600 km à l'est de Tripoli, un port qui est entre les mains du régime. Lors de la prière à Benghazi, le fief des insurgés, l'imam a promis aux fidèles que la victoire était proche. À Tripoli, la capitale, l'opposition tente de manifester malgré la présence massive de l'armée dans le quartier de Tadjoura. Des affrontements ont opposé une centaine de manifestants anti-régime aux forces de l'ordre. Enfin, sur le plan humanitaire, on estime que près de 100 000 personnes ont déjà fui la Libye par la frontière tunisienne. Et puis, conséquence en France de ces révolutions dans le monde arabe, des migrants qui arrivent de plus en plus nombreux dans le sud-est de la France, principalement des Tunisiens. Claude Guéant s'est rendu à Nice ce matin. Le ministre de l'Intérieur demande aux autorités italiennes de retenir sur leur territoire les migrants tunisiens qui cherchent à passer en France. Ça s'est passé à Nanterre. Un homme de 37 ans a tenté de s'immoler par le feu devant la mairie aujourd'hui vers midi. Il demandait à être reçu par les services du logement de la ville. Il était muni d'un bidon d'essence et d'un briquet. La police a réussi à le raisonner. L'homme a été placé en garde à vue. Devant le tout Paris de la mode, le patron de Dior Couture, Sidney Toledano, a pris la parole juste avant le début du défilé de la marque, le dernier conçu par John Galliano. Sidney Toledano a qualifié les propos du couturier, contre lequel deux plaintes ont été déposées, d'intolérables et regretté que le nom de Dior y ait été mêlé. John Galliano a depuis été licencié de son poste de directeur artistique de la marque. Et puis c'est parti pour le premier tour de la Coupe Davis et du tennis avec le début de la rencontre France-Autriche. Jérémy Chardy affronte le numéro 10 mondial, Jürgen Melzer. Bavière. Fabrice Abgral, vous êtes sur place à Vienne. Alors comment ça se passe pour le Français ?
Eh bien ça se passe très bien pour Jérémy Chardy, lui classé 55e joueur mondial, puisque Jérémy Chardy a remporté les deux premiers sets et dans la troisième manche, 3-2 en faveur de Jérémy Chardy. C'est Jürgen Melzer qui est actuellement en service pour tenter de revenir à 3-2 alors que Jürgen Melzer dans ce troisième set avait réussi à faire le break. Il a mené 2-1, service à suivre, mais juste derrière, heureusement, eh bien Jérémy Chardy a réussi à débriquer pour se relancer dans ce troisième set. Jérémy Chardy très impressionnant au tennis, très propre depuis le début de cette rencontre. Il joue parfaitement le coup pour l'instant face à Jürgen Melzer, un joueur pourtant qu'il n'a jamais battu en deux confrontations. Le deuxième set remporté par Jérémy Chardy alors que le Français aurait pu terminer le set beaucoup plus tôt, puisqu'il a mené 5-2 à 5-3. Il a même servi pour le gain de la deuxième manche, mais Jürgen Melzer a réussi à débriquer, à revenir à 5-4, service à suivre. Mais juste derrière, eh bien Jérémy Chardy a réussi à breaker, à prendre le service de Jürgen Melzer, un break synonyme de deuxième manche donc pour Jérémy Chardy, qui joue véritablement sans complexe face à Jürgen Melzer. Il lâche ses coups, il joue complètement libéré, alors qu'on aurait pu penser qu'il allait être un peu crispé, un peu tendu, Jérémy Chardy, puisque je vous rappelle que c'est la première fois qu'il dispute en Coupe Davis un match en jeu. Mais pour l'instant, tout se passe très bien donc pour Jérémy Chardy. Il mène 2-7-0 et 3-2 dans le troisième set. À Vienne, Fabrice Abgral, France Inter.
Merci Fabrice Abgral, et on prend des nouvelles évidemment du match à 17h.
Les liaisons heureuses, Colombe Schneck.
Ce samedi sur France Inter, en partenariat avec Le Monde des Livres, Philippe Forest pour L'Enfant éternel chez Gallimard.
Face à la plus grande douleur, les mots sont à la fois le seul recours et en même temps ne sauvent pas de la douleur.
Et Camille Laurence pour Philippe, dont les éditions Stock proposent une nouvelle publication.
Quand on écrit un livre qui est inspiré de sa propre vie, c'est aussi compliqué que d'écrire un roman de fiction avec une contrainte en plus, qui est la contrainte de dire le vrai.
Les liaisons heureuses, demain à partir de 15h.
France Inter. France Inter.
La différence.
Et à 16h05, on discute tennis avec Jean-Claude Cazette-Suy. Frédéric Ledéon, bonjour.
Bonjour Corinne.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, je reçois, comme vous l'avez entendu, Jean-Claude Cazette-Suy, chef d'orchestre international et heureusement un peu national aussi, est avec nous assez souvent. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour cher Frédéric.
Pour une activité très très riche, parce que d'abord c'est le 35e anniversaire de l'orchestre, que vous avez mené au début en 76 dans des circonstances difficiles, quelques personnes un tout petit peu démoralisées dans cet orchestre, et vous avez réussi à insuffler un enthousiasme qui est depuis, mais qui continue depuis de nombreuses années. Vous faites des tournées international, vous étiez en Russie il n'y a pas si longtemps que ça, au mois de septembre, et ça s'est passé de manière somptueuse, on l'a raconté. Et puis là, il y a une offre, si je peux dire, parce qu'il y a une tournée, il y a un concert à Paris le 15 mars, et puis des DVD, des disques, enfin on va entrer dans le vif du sujet. Vous étiez en Russie, alors quel enseignement en avez-vous tiré ? Qu'est-ce que vous avez ressenti de ce peuple russe que vous connaissez bien, bien sûr ? Mais enfin là, venu avec l'orchestre pendant plusieurs jours, entre le 24 et le 29 septembre, ça vous a apporté quoi ? Qu'est-ce que vous avez apporté vous aussi, d'ailleurs ?
Bon, d'abord, vous savez que j'ai du sang russe, ma grand-mère. Oui, ma grand-mère était russe, et je vais très souvent à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. J'y retourne au mois d'avril, à titre personnel, invité par Fedoseyev, qui d'ailleurs est actuellement avec mon orchestre ce soir. Il a fait un très beau concert hier, il en fait un autre. J'ai des liens charnels avec ce pays. Mais outre ces liens-là, le sentiment d'avoir été ambassadeur de notre pays, d'avoir été reçu, comme vous le disiez très gentiment, mais vraiment avec un enthousiasme extraordinaire. L'orchestre a donné le meilleur de lui-même. Il est en plus dans une forme actuellement qui me ravit. Enfin, c'est le début de la jeune maturité. Et les accueils que nous avons reçus étaient absolument prodigieux. lieu. En plus, on a été joué dans plusieurs villes qui accueillaient pour la première fois un orchestre français. Nini Novgorod, qui était la ville de Sakharov, où aussi Rostropovitch, votre maître, a été le soutenir pendant plusieurs années. Nous avons joué aussi à Tuymen, qui est la capitale du Texas russe, c'est-à-dire la capitale du pétrole, et puis à Ekaterinbourg, Saint-Pétersbourg, Moscou. Voilà, donc c'était une très belle, très 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 belle tournée dans le cadre de cette année croisée France-Russie, qui perdure d'ailleurs encore en ce moment.
Voilà, oui.
Nous succédions avec des grandes institutions comme la Comédie Française, et voilà.
On est très fiers. Et d'entendre avec vous, Jean-Claude Cazetsu, l'Orchestre National de Lille, et puis le chœur de Lettonie. On va entendre un passage, c'est pas une incitation, hein, parce que ça bouge beaucoup plutôt dans les pays arabes en ce moment. Mais enfin, c'est un chœur tiré d'Alexandre Nievski, « Debout, peuple russe ».